Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là en ce samedi après-midi pour cette 39e foire du livre de Brive. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir interviewer en cette fin d'après-midi Christine Angot à l'occasion de ce roman qui a paru fin août, Le Voyage dans l'Est, et qui a reçu il y a quelques semaines le prix Médicis, un prix qui vient récompenser un travail de longue haleine. Un travail qui, on peut dire, au niveau aussi des critiques, mais parce qu'il y a énormément de critiques qui ont visé juste, qui est enfin lu et entendu, puisque ce qui est saisissant dans Le Voyage dans l'Est, c'est à la fois le fait de raconter, de revenir sur l'inceste, et en même temps de le dire. C'est-à-dire qu'on a ce double mouvement. On entend une parole nous raconter une histoire, et en même temps, on a tout le mécanisme d'emprise, c'est-à-dire que comment vous êtes passé et comment la narratrice passe d'objet à sujet. Et alors, ma première question, étant donné qu'on est dans une foire du livre et qu'il y a cette rencontre entre une autrice et ses lecteurs et ses lectrices récompensés par ce prix, c'est quel est ce rapport qu'il y a entre l'auteur et son lecteur. Je voulais lire un court texte de Roland Barthes qui disait « Sur la scène du texte, pas de rampe, il n'y a pas de rampe. » Il n'y a pas derrière le texte quelqu'un d'actif, l'écrivain, et devant lui quelqu'un de passif, le lecteur. Moi, j'ai l'impression que vous demandez à vos lecteurs cette part d'activité pour qu'ils vous entendent pleinement.
Eh bien, c'est pas exactement ça, en fait. Je crois que je demande rien au lecteur. Je crois que j'ai confiance en lui. Et donc, j'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Je pense qu'il est mon frère, ou ma sœur, ou qu'on est, oui, vraiment, qu'on est de la même sorte, qu'on sait les mêmes choses, qu'on est au courant des mêmes choses. Qu'on a la même sensibilité, que quelque chose, que un mot, une phrase, qui est par exemple telle phrase, sera ressentie par lui de telle façon. Voilà. J'ai une espèce de certitude là-dessus, de fond. Donc je ne lui demande rien. En revanche, je fais avec lui. Ça, oui. Je ne fais pas toute seule dans mon coin. Je fais en pensant à lui. Tout le temps. En pensant à ce qui se passe pour l'autre, pour quelqu'un, quand il lit une phrase, quand il lit un passage, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ça, oui. Pas seulement, ah tiens, je raconte bien l'histoire ou je ne sais pas quoi. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Non. C'est vraiment ce qui est ressenti, ce qui est compris, ce qui a tellement de choses. Il n'y a pas dans un texte, il n'y a pas seulement une histoire qui avance ou tout ça. C'est multiple. C'est multiple, on ne peut même pas dire tout ce qu'il y a, tellement il y a de choses.
Et quand vous lancez dans cette aventure, dans cette expérience de l'écriture du Voyage dans l'Est, est-ce que tout est prémédité ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a forcément le choix du sujet ou qu'à un moment donné, le sujet vous choisit aussi ? Il y a quelque chose qui s'écrit à un moment donné et qui doit être écrit ?
Je dirais qu'il y a un sujet qui rôde. Je ne peux pas dire que je choisis un sujet. Je veux dire que j'essaye de voir, là, ça va m'arriver, là, bientôt. Hein, parce que là, je suis en train de sortir un livre. Bon, on est le 6 novembre, c'est ça ? Voilà, on est le 6 novembre, bon. Ça fait 2 mois et demi que le livre est sorti. Je suis un peu fatiguée. Donc, j'ai beaucoup travaillé, l'écriture de livres, le sortir, tout ça, sans pratiquement m'arrêter. 2 semaines, c'est tout, entre la fin de l'écriture du livre et la sortie. Peut-être je vais essayer de me reposer un petit peu, comme ça je vais y aller tout doucement, mais il y a un moment, je vais essayer de savoir ce qui rôde à l'intérieur de moi. J'espère qu'il y a quelque chose qui rôde. C'est ça l'inquiétude, c'est qu'il n'y ait rien qui rôde à l'intérieur de moi et dont je me dirais, ben tiens, voilà, il faut que je fasse ça. Donc c'est plus ça. C'est pas tellement choisir un sujet, parce que moi, je ne peux pas choisir un sujet. J'ai pas une infinie possibilité. Moi, je ne sais pas tout faire. Hein. Je ne suis pas... Je ne suis pas la femme orchestre. Hein. Moi, je dis pas, tiens, je vais faire ça. Si je peux. Mais est-ce que ça m'intéresse? Non. Non. Pour montrer que je sais le faire, ça ne m'intéresse pas. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui rôde et qui demanderait à être écrit par moi? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui est en train de me choisir? J'aimerais bien qu'il y ait un sujet qui soit en train de me choisir. En fait, c'est ça que j'attends. C'est que j'attends de voir s'il n'y a pas quelque chose qui a besoin de moi. Que si moi, j'y vais pas, eh ben, ça va continuer comme avant. On continuera à rien comprendre si moi, j'y vais pas. J'ai besoin de ressentir ça. Sinon, si c'est pour dire, d'accord, je vais faire mon exercice de style personnel avec ma plume personnelle un sujet personnel éventuellement, mais bon, où je vais juste mettre mes couleurs, mes formes, mon rythme. Je pense que oui, ça pourra contenter pas mal de gens, mais ce n'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose que je dois vraiment faire. Mais il y a des choses que je dois vraiment faire. Le voyage dans l'Est, je devais le faire. Hein. Si moi je ne l'avais pas fait, qui est-ce qui l'aurait fait? Il n'y a personne qui l'avait fait jusque-là, le voyage dans l'Est. Il fallait que je le fasse. Parce qu'il y a des choses qui sont vues... comment dire? Les choses se passent d'une certaine façon dans la vie. Bizarrement, tout le monde n'a pas forcément envie de dire comment elles se passent. Et moi, c'est ça que je ne comprends pas. Donc c'est ça, il faut que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu comme ça de vrai. Et donc je me dis, ok, il faut que j'y aille. Sinon, j'ai l'impression de ne pas avoir de place et de ne pas avoir d'utilité. Il faut que je sente mon utilité. Et les moments difficiles, au fond, où je ne trouve pas quoi écrire, c'est ceux où je me dis, bon voilà, ce que je sais ne sert plus à rien.
Et quand vous êtes face au sujet comme ça, qui rôde, parce que cette figure de ce qui rôde a quelque chose d'inquiétant, et peut avoir quelque chose d'inquiétant. Il y avait un titre d'Annie Ernaux qui disait « L'écriture comme un couteau ». Est-ce qu'il faut utiliser le couteau pour, à un moment donné, percer les mots pour vous les approprier? Parce qu'il y a une précision dans Le Voyage dans l'Est où le père de la narratrice lui donne les mots. Et à un moment donné, il faut passer par un état où il faut lui ravir les mots pour les confronter au réel, pour pouvoir dire au plus près ce que sont véritablement les mots, vos mots à vous.
Alors, je vais vous dire, chez moi, il n'y a pas de couteau. C'est plus une sorte d'exaltation. C'est-à-dire que si je m'aperçois qu'il y a un sujet... En fait, c'est soit l'exaltation, soit la douleur de ne pas trouver, de ne pas voir quelque chose que je devrais vraiment faire, mais vraiment. Ou alors de ne pas y parvenir. Parce que quelquefois, je me dis, ah, c'est ça. Et puis j'essaye, puis en fait, j'arrive à rien. Et je fais, et ce que je fais, c'est pas intéressant. Et c'est moins bien que ce que font les autres. Donc franchement, je vois pas l'intérêt. Donc ça, c'est dur, quoi. C'est même pas que c'est moins bien ce que font les autres, c'est que j'arrive même pas à la page 2. Donc ça, c'est dur, quoi. De la bouillie, quoi. Ça reste de la bouillie. Ça reste comme dans la tête. Dans la tête, on a beaucoup de bouillie, hein. Donc, c'est un peu dur d'avoir de la bouillie dans la tête. Il faut en sortir. Donc, je ne crois pas qu'on puisse aller dans la bouillie avec un couteau. Non. En revanche, si tout d'un coup, il y a une espèce de... Je ne sais pas, de... Si la conviction reste... que malgré ce pataugeage, eh bien, on y retourne le lendemain et le surlendemain, là, ça veut dire que bon, ben, on ne va pas pouvoir y échapper. Mais pour avoir un couteau, il faut être très sûr de soi. Or, non, c'est plutôt... il faut arriver à restituer, en même temps, cet état de bouillie, à savoir de... Je ne sais pas comment dire. Les choses, elles sont invisibles, elles sont comme ça, on ne les comprend pas, on ne voit pas. Et souvent, c'est en prenant, enfin dans mon cas en tout cas, c'est souvent en prenant, par exemple là, dans le voyage dans l'Est, une chronologie. Voilà, il se passe ça à tel moment, après il se passe ça. Voilà, il faut suivre une sorte de ligne très simple. Très très simple. Je me suis beaucoup dit, peut-être il faudrait, pendant longtemps, je me suis dit, il faudrait peut-être que ce soit le jour où je rencontre mon père, que je commence comme ça. Alors on pourrait se dire, oh, bah, à partir du moment où c'est ça, il suffit de le faire. Ben non, il ne suffit pas de le faire. Non. Il faut être sûr que c'est ça, que ça ne devrait pas plutôt être tel moment, tel autre. Voilà, rien n'est sûr. Si on insiste quand même, eh bien, il faut trouver une phrase. Il faut trouver une phrase. Laquelle ? Laquelle ? Quelle phrase ? Là, c'est... j'ai rencontré mon père à Strasbourg dans un hôtel que je ne saurais pas situer. Celle-là, oui. Pourquoi ? Si je la regarde après coup, sûrement parce que j'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg, virgule, que je ne saurais pas situer, point. Bon voilà, déjà, que je ne saurais pas situer, la phrase dit exactement le rapport qu'on a à la réalité, à savoir, on est sûr de quelque chose et on n'est pas sûr d'autre chose. Il y a quelque chose qu'on sait, et quelque chose qu'on ne sait pas. Et donc, c'est pourquoi je ne crois pas au couteau. Pour y aller au couteau, il faut être sûr, dès le départ. Non, je crois qu'il faut respecter, enfin, en tout cas pour moi, cette espèce de double connaissance qu'on a de soi-même, qu'il y a quelque chose qu'on sait de manière certaine, et quelque chose qu'il faudrait qu'on précise, parce qu'on n'est pas certain. Et on ne sera jamais certain. Et ça sera toujours... on sera toujours ce mélange d'un aiguillon, comme ça, qui nous tient et contient, et puis d'une espèce de choses qui s'échappent. Mais c'est pas grave que ça s'échappe du tout. On n'est pas obligé de tout avoir.
Il y a quelque chose qui m'a frappé à leur lecture, parce que c'est aussi un roman qui appelle différentes lectures, puisque c'est à chaque fois une expérience différente. Il y a des photographies qui sont prises à plusieurs moments donnés du livre. Mmh. Et j'ai l'impression que les photographies, Roland Barthes disait, la photo, c'est pour dire « ça a été mmh, », « ça exactement. A existé », « ça ». Et vous le dites sur le « ça », sur l'inceste. La narratrice dit « voilà que ça m'arrive ». Est-ce que cette présence des photographies, c'est une manière de dire « ça s'est passé comme ça, voilà, ça existe », sachant alors, que...
Alors, ce qui est important, c'est « ça existe, bon, et c'est comme ça ». Parce que si vous dites juste « ça existe », c'est-à-dire c'est le témoignage. Ok, ça existe, ça a existé, c'est le témoignage. Très bien. La photo, d'ailleurs, est un témoignage. Bon. Donc ça existe, ça a existé, c'est un témoignage. Et là, à ce moment-là, eh bien, il y a ceux qui disent « ah bah oui ». Et après, on rentre dans le débat. On croit, on ne croit pas. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux... Ça ne m'intéresse pas. Non. Ça existe, oui. Et ça existe comme ça. Ça existe et c'est comme ça. Ça, c'est intéressant. Parce que quand vous dites ça existe ou ça a existé, vous vous mettez dans le rôle de celui qui se met au service des statistiques. Ah ben oui, ça existe. Je peux vous dire, ça existe. Et d'ailleurs, je suis témoin, ça existe, ça a existé. Vous voyez, moi, ça existait pour moi. Voilà. Bon, très bien. On met un numéro sur votre dossier et c'est, voilà, c'est le témoin Angot. Ok, parfait. Voilà, ça existe, ça a existé. Elle le raconte bien. Elle le raconte bien aussi. Lui, il le raconte moins bien. Voilà, on va dire, ah ben, là, c'est un témoin, elle raconte bien. Celle-là, là, voilà, ça, c'est intéressant. Ça. Bon, si vous dites... Ça existe, oui, bah évidemment, ça existe. On va même pas revenir là-dessus. Oui, bien sûr, ça existe. Ça existe. Bon. Ça existe. Mais on ne va pas parler de si ça existe. C'est pas la peine, puisque ça existe. Donc tout le monde le voit, tout le monde le sait. Même ceux qui disent, est-ce que ça a existé? Est-ce qu'on vous croit? Est-ce qu'on ne vous croit pas? Ça sert à quoi de dire, quand quelqu'un... a vécu un inceste ou une agression sexuelle, il faut le croire. Ça sert à quoi ? Il n'y a pas besoin de dire il faut le croire, on le croit, point, c'est tout. Ok, question suivante. Maintenant, c'est comment ? Parce que le fait de dire ça existe, ça a l'air de dire que, pour certains doutent que ça ait existé. C'est comme de dire les chambres à gaz, ça existe. Pourquoi tu me dis que les chambres à gaz, ça existe? Il y a quelqu'un qui a dit que ça n'existait pas? Ah ben attends, bon, c'est pas la peine d'en parler. Il est dans son délire, c'est très bien. On va quand même pas parler à des gens qui sont dans leur délire. C'est grotesque. C'est absolument grotesque, ça perd du temps. C'est ridicule, quoi. Ridicule. Bon. En revanche, ça existe. Et c'est comme ça. C'est-à-dire... Il embrasse sur la bouche. Ok, parfait, très bien. Je ne sais plus quelle est la phrase. Mon père m'embrasse sur la bouche. Le mot inceste s'est immédiatement formé dans ma tête. Et j'ai pensé, en me le formulant, tiens, ça m'arrive à moi, ça. Voilà, ça c'est une ça, c'est pas ça existe ça. Ça c'est une information. Ah bon, la personne pense? Ah bon, la personne voit des mots dans sa tête? Ah bon, la personne comprend? Ah bon, l'enfant n'est pas une chose à qui il faut expliquer ce qu'elle a vécu après coup? Ah bon, l'enfant est intelligent. Ah bon, l'enfant connaît le mot inceste. Voilà. Ça, c'est très différent déjà. C'est-à-dire, il se passe des choses dans la tête des gens pendant qu'il leur arrive des choses. et on peut dire lesquelles. Aller un peu au-delà du mot emprise, sidération, silence, etc., 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 etc. Il faut chasser tous ces mots-là, il faut les chasser. Mais pour les chasser, il faut dire ce qui est vraiment. Parce que sinon, ces mots-là sont des mots de discours. C'est très intéressant, discours, et c'est très important pour faire avancer la société, l'état des points de vue sociaux et tout ça, bien sûr. Mais il faut, d'un autre côté, les chasser, parce que sinon, on va en rester au discours. Ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas, d'autant plus que ce qui est saisissant dans Le Voyage dans l'Est, c'est que la narratrice en parle, le raconte, et que tout le monde est évidemment d'accord pour ne pas le laisser, mais tout le monde est d'accord pour ne pas lutter contre.
Oui, c'est drôle.
Et ça, c'est assez saisissant. C'est personne drôle. Ne dit « oui, c'est... » Personne ne normalise.
Non,
il y a cette
absolument.
Idée d'interdit, mais on a absolument. L'impression que l'interdit fondamental, à un moment donné, ce « ça », l'inceste, ça, voilà, exactement ça, on a tendance à... On a mis trop de mots dessus pour ne pas se rendre compte de la réalité. Donc ce que votre narratrice décrit, c'est que tout le monde est d'accord, au final, pour ne pas lutter contre. Et on laisse.
Alors, je ne sais pas si on peut dire tout le monde est d'accord pour ne pas lutter contre. Moi, j'aurais plus tendance à dire personne ou très peu de gens pensent qu'ils ont la force de lutter contre. Je pense que c'est plus juste de dire ça. Parce que si on dit tout le monde est d'accord pour ne pas lutter contre, on donne une vision qui me paraît très dure des autres. Et je ne crois pas que cette vision soit justifiée. Vraiment, je ne crois pas. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose de désarmant. Et donc, quand on se sent peut-être incapable ou désarmé, eh bien, on dit rien, justement. On dit rien, voilà. On ne lutte pas. Ça, c'est vrai que la question de lutter, ne pas lutter. Et oui, ça c'est très... C'est ça. Personne ne banalise, vous avez raison. Personne ne banalise, personne ne minimise, tout le monde est... La mère se retrouve quand même à l'hôpital, hein, c'est-à-dire qu'elle se fait à elle-même une infection. Donc, on n'est pas du tout dans l'indifférence. Non, ça, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible de dire ça. C'est faux. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pas grand-chose. Enfin, on ressent des choses, on se scandalise justement, on ne banalise pas, éventuellement on se scandalise, hein. On a des points de vue, on a des émotions, on a des... on dit que... Voilà. Mais c'est tout. C'est tout. On n'agit pas. Ça qui est étrange, c'est ça qui est problématique.
Il y a cette manière si personnelle qui peut-être n'avait pas été vue avant. Je parlais aussi du Prémédicis et des lecteurs qui ont un moment donné, des lectrices ou de la critique qui a changé. Et pourtant, vous avez toujours ce même texte, cette même écriture. C'est Hervé Guibert, dans une interview à Bernard Privot, quand il avait écrit « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », il disait la chose suivante, de même que là, « Mon travail était devenu le sida. Le sida me travaillait, je me suis laissé travailler par cette colonisation comme ça. » Et on retrouve le « ça » ici.
Bah, là, je suis obligée de vous dire que oui, là, c'est vrai que c'est vrai que ce que vous dites, là, ça fait un écho en moi, c'est vrai. C'est vrai. Et j'imagine pas plus que pour Hervé Guibert, ça devait être « Ah, super, je me laisse travailler par le sida. » Je ne me suis dit, et j'ai mis même beaucoup de temps, je veux dire, je me suis pas dit « Ah, super, je me laisse travailler par l'inceste. » Mais j'ai fini par accepter, probablement. avec ce dernier livre, en effet, par accepter. Par me dire, bon, bah, d'accord. Allons-y. Puisque finalement, voilà quoi, c'est. Il faut bien faire les choses et il faut des gens pour. Comme on disait quand j'étais petite, il faut tout pour faire un monde. Ou on disait aussi, il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Donc, après tout. D'ailleurs, ça me surprend quelquefois, ça, là, récemment. Je me dis, tiens, avec toute la presse qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu sur ce dernier livre, là, que les gens aient lu ce livre qui ne l'aient pas lu, s'ils me connaissent, s'ils savent, s'ils connaissent mon nom, s'ils savent ce que j'ai publié, ou qu'ils m'aient lu ou non, sûrement qu'ils ont le mot inceste attaché à moi. Bon. Pas forcément, mais je me dis en tout cas sûrement. Et là, depuis, je me dis, bon. Avant, je pense que je me serais dit tant pis. Là, je me dis même plus tant pis. Je me dis, ben, voilà. Au fond, si je suis celle qui. Qui montre comment cette chose-là est, ben, je me laisse travailler par cette chose-là, peut-être. C'est déjà bien de se laisser travailler par quelque chose, parce que les autres, ils se laissent travailler par quoi ? Ils travaillent, oui, mais ça ne sert à rien de travailler. Si on ne se laisse pas aussi un peu détruire par quelque chose.
Le texte est d'ailleurs travaillé dans son corps, dans sa forme, avec la présence au centre de ce journal.
Je peux dire un truc ?
Oui.
Excusez-moi, mais ça me traverse l'esprit. Et d'ailleurs, ce que vous dites sur le journal, c'est bien aussi que vous en parliez maintenant. Je suis allée dans beaucoup de librairies depuis début septembre. Et quelquefois, j'ai été très bien reçue. Enfin, j'ai été partout très bien reçue, mais quelquefois, j'ai été très bien présentée. Le livre a été très bien présenté, ou moi, j'ai été très bien présentée, ou mon travail a été très bien présenté, comme par exemple à Mulhouse, où j'ai été reçue déjà par Antoine Jarry, et puis à d'autres endroits aussi, où enfin voilà, il y a plein d'endroits où. Où c'était vraiment bien, où j'ai été vraiment bien, le libraire ou la personne qui me recevait, c'était. Voilà. Et après, du coup, le truc avec les lecteurs, tout ça, c'était vraiment bien. Et puis, il y a d'autres endroits, je dois dire, dans des librairies, où ça a été très pénible pour moi. Où on me présentait, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, une libraire. Qui était là comme ça, qui me posait des questions, qui avait adoré le livre, etc., qui le présente au lecteur en disant « C'est un livre terrible, terrible !» Bon, c'est affreux, c'est bon, etc. Cette petite fille, enfin, etc. Donc, dans des moments comme ça, c'est vraiment dur, quoi. C'est comme si une négation de tout ce qu'est le livre. Enfin, c'est vraiment des épreuves, quoi. Mais, alors, je voulais dire que. Oui, c'est ça. Et donc, quand c'est comme ça, du coup, quand je peux, La solution que je trouve, c'est parfois de lire. Et puis ensuite, du coup, c'est moi qui attrape le... Et puis voilà. Et puis je fais en sorte que, qu'elle arrête de prendre comme ça le pouvoir sur le livre, sur le travail, sur tout. Enfin, et c'est insupportable, quoi, vraiment. Et j'essaye d'avoir un rapport direct avec le public. Et puis je me disais, la dernière fois que ça m'est arrivé, je me disais, c'est fou. Je me disais, c'est fou. Je suis en train de parler publiquement à des gens que je ne connais pas, d'une chose et sur un ton extrêmement froid, détaché, raisonné, de choses tellement dures, tellement... c'est même pas intime, c'est secrète. C'est des choses dont je ne parle jamais avec la personne avec qui je vis. Par exemple, on en parle quelquefois, on en a parlé, bien sûr, mais même avec la personne avec qui je vis, voilà, c'est trop difficile. Et je suis là, je leur dis, ah oui, mon père m'embrasse sur la bouche, mon père fait ci, mon père, oui, alors cette fois-là, oui, alors là, il m'a sodomisé, etc. Mais je suis folle, je dis, mais c'est quoi là? Mais que se passe-t-il? Et en fait, ça crée une violence incroyable. C'est extrêmement violent. Ça. C'est très violent. Parce que parfois, les lecteurs disent, ah oui, c'est violent, c'est violent. Mais qu'est-ce que... Oui. Oui. Mais ce qui tient, ce qui me tient, c'est cette confiance qui ne m'a jamais lâchée, mais jamais, dans la capacité de la littérature à montrer le réel tel qu'il est, sans faire de blabla, sans faire de... en évitant toutes les postures, les « ah oui, il faut ceci, il faut cela », voilà. Donc, ouais, je sais pas.
Et j'évoquais cette présence du journal avec cette idée que ouais. ce qui est d'ailleurs, enfin, je l'exprime aussi dans ce que je vois. Ce qui est assez impressionnant, c'est quand vous avez recherché le passage qui est au tout début du texte, c'est des mots qui se sont véritablement imprimés en vous. C'est-à-dire qu'il y a certaines phrases, parce que vous avez choisi, et comme vous nous l'avez dit aussi au début, sur la première phrase, la virgule, vous n'allez pas la mettre. Enfin, c'est pas juste, comme vous l'avez dit, par rapport au réel. C'est-à-dire que le réel a à voir quelque chose avec la phrase juste. Et donc, par rapport à cette présence du journal, comment c'est arrivé, comment ça s'est construit? Parce qu'on a l'impression que, voilà, que ce texte, dans sa forme, se... et travailler de l'intérieur, presque, comme s'il y a quelque chose qui travaillait.
Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais à quel point ça peut être violent, enfin, à quel point ce n'est pas normal de se retrouver comme ça, publiquement, d'avoir cette place, en effet, d'avoir tellement accepté d'être travaillé par l'inceste, par exemple, dans ce livre-là, qu'on se retrouve à dire des trucs dont on ne peut pas parler. Normalement, quoi. Bon. Et du coup, la pudeur, eh bien, elle va venir sur... Mais non, je ne peux pas, je ne veux pas que vous sachiez comment je me suis... comment je me suis débrouillée avec ce journal, en fait. Comment il est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai été le chercher? Comment je l'ai construit? C'est quoi mon truc? Mais ça, je le garde pour moi. Voilà. Il faut quand même que je garde un ou deux trucs pour moi. Eh bien, les choses que je garde pour moi, par exemple, ça va être ça. Vous voyez? Et pour tout ce que je peux dire du journal, de ce morceau de journal, c'est qu'à un moment, je ne sais pas si je vous l'avais dit, il me semble qu'on avait parlé de ça à Mulhouse, Quand on parlait de ce passage-là, avec une fois que je l'ai fait lire à mon éditrice, Teresa Crimisi, on parlait notamment de ce morceau-là, qui était un peu très, je sais pas, enfin, brutal, disons, dans sa candeur. Il est à la fois candide, c'est un passage à la fois candide, et parce qu'il est candide, brutal. Et j'ai dit à Teresa, ce passage-là du journal, c'est comme si au milieu du livre, parce qu'on a, voilà, on a un livre, hein, un livre de littérature, hein, comme ça, c'est comme si au milieu du livre, on avait un morceau de viande crue. Voilà, comme ça. Imaginez, vous ouvrez un livre, vous tournez les pages, au milieu du livre, il y a un bout de viande crue. C'est bizarre quand même. C'est brutal, c'est violent. Mais c'est un peu ça le journal, pour moi.
Ce qui est aussi extrêmement saisissant dans le voyage aussi dans l'Est, c'est cette idée aussi d'aller-retour, parce que quand on fait un voyage, on part et on revient, et ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire que comment votre narratrice passe de cet état d'objet à cet état de sujet, puisque son père lui donne les mots, et d'ailleurs elle lui donne des mots très précis. Qu'est-ce que ça révèle aussi de cette force de la littérature de reprendre les mots? Parce que vous avez dit aussi très justement, on arrête de parler des mots trop, qui ont été trop utilisés. Qu'est-ce que ça révèle de la littérature de dire on peut reprendre possession du langage et utiliser ces mots à soi et pas ceux qu'on nous donne?
En même temps, je suis obligée de réagir quand vous dites utiliser ces mots à soi. Moi, je n'utilise pas mes mots à moi. Hein. Je n'aime pas quand on dit... Vous savez, sur les plateaux de télé, quand il y a quelqu'un qui a été victime de quelque chose qui vient parler, le journaliste lui dit en général, journaliste, voilà, présentateur d'une émission de grande écoute, très connue du public, etc., qui dit à la victime qui est là, pour la rassurer, pour la prendre sous son aile, dites-le avec vos mots à vous. Dites-le avec vos mots à vous, parce qu'elle est là, elle tremble un peu, elle est un peu comme ça, parce que voilà, c'est sa vie et tout, il va falloir qu'elle dise un truc, qu'elle parle de je sais pas quoi, bon. Non, mais allez-y, ça va très bien se passer, dites-le avec vos mots à vous. Mais non, moi je parle pas avec mes mots à moi, hein. Je parle avec nos mots à nous. Moi, j'ai pas des mots spécialement à moi, comme une pauvre idiote, là... ça serait ses mots à elle, et puis journaliste, il aurait les mots à nous. Non, non, non. Donc, il faut faire attention à cette histoire-là, dites-le avec les mots à vous. Comme si c'était des sous-mots. Non, je ne parle pas avec mes mots à moi. J'ai pas de mots à moi. Mais on a des mots et on a tous grandi dedans. Nous tous. On a grandi à l'intérieur des mots. Et donc on les connaît tellement bien. Tellement bien. Qu'on ait vécu des choses difficiles, qu'on soit victime de quelque chose ou pas. Les mots, on a grandi, on les a entendus pareil, on a les mêmes oreilles. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut bien savoir quand même. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que la littérature, c'est notre bien commun. Commun. C'est le lieu où on s'entend, où on se comprend, où la parole de mon père n'a pas d'importance. Ce ne sont pas ses mots à lui. Il n'a pas besoin de me dire « tu devrais écrire ça ». Ce n'est pas à lui de me donner l'autorisation. Non. Et la littérature, c'est ça. Commencer un livre, c'est dire « Ne me donne pas la parole, s'il te plaît. Ne me dis pas de parler. Ne me dis pas d'écrire. Ne me dis rien. Tais-toi. Ne me dis rien. Ne me dis pas de parler avec mes mots. » C'est ça. C'est juste ça. Et c'est être dans la... Comment dire ? Dans cette espèce d'amour, hein, qui nous unit tous à travers les mots dans lesquels on est né. Voilà, il y a ça. Ça, ça existe. Et c'est pour ça que c'est assez dégueulasse, en fait, d'humilier quelqu'un par rapport aux mots. C'est pour ça que c'est pour ça que ça nous... Enfin, moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais petite, je crois que je vous l'avais raconté, d'ailleurs, on s'en est dit des choses quand on était à Mulhouse, où une femme était avec un enfant qui bégayait, c'est son fils, et moi j'étais là avec ma tante, et j'avais à peu près le même âge que le petit garçon, et le petit garçon bégayait un peu, bon, voilà, tout ça, et ensuite sa mère me pose une question, savoir où j'allais à l'école ou je sais pas quoi, et je réponds. Et la mère de ce petit garçon dit à ma tante, non, mais elle parle bien. Et ma tante dit, ah bah oui, ça, oui, ça, oui. Et à ce moment-là, la mère dit à son petit garçon qui bégaye, elle lui dit, tu vois. Et ça, vous voyez, je m'en rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. En fait, je crois que j'écris aussi pour ça. Parce qu'il n'y a pas de raison, vous voyez. Et trop souvent, la littérature est appropriée par des gens qui pensent que, qu'il y a des gens qui ont leurs mots à eux, mais qu'eux ont les mots. Et ça, c'est... Enfin, c'est une idée de la littérature, pour reprendre la distinction que fait Tiphaine Samoyau... Qui me déplaît. Elle dit qu'il y a l'idée de littérature, bon, et que donc il y a des livres qui correspondent à ce que c'est que l'idée de littérature qu'on se fait à une époque de ce qu'est ou devrait être la littérature, et puis que régulièrement il y a des écrivains qui font des livres sans se poser la question de si ça correspond à l'idée de littérature, et que c'est justement là qu'il y a de la littérature. Et c'est réjouissant parce que c'est comme des pièges, en fait. À chaque fois qu'on écrit un livre, c'est comme si on tendait un piège à l'idée de littérature. Et c'est pour ça que c'est très gai aussi d'écrire. Parce qu'il y a cette agressivité-là de tendre un piège à des idées de littérature.
Merci beaucoup, Christine Angot, pour cette parole.
Merci à vous.
Précieuse. Je rappelle le titre primé d'Issis, qui a eu également le prix des Inrecuptibles. Voyage dans l'Est, Christine Angot, aux éditions Flammarion. Merci infiniment à vous.
Merci à vous.